تطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبطبط طيب على حياة الفرحة طقطقطقطقطيني طقطقطمصيتيني زماني الغايب على حياة الفرحة.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Moi, je lis et avec vous, je partage une fois par semaine. Je chronique les ouvrages, bien sûr. J'interviewe les auteurs quand c'est possible. Et puis, et tout est là, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué, histoire de vous restituer les émotions d'une autre manière, sans les mots, avec la musique, histoire de briser un peu les passerelles et que ceux qui sont plus sensibles à la musique se sentent interpellés aussi. Et pourquoi pas, s'essayent à la lecture. Aujourd'hui, au sommaire de ce Rock and Page, un roman graphique. Il s'appelle Juliette. Il est signé Camille Jourdi. Il vient tout juste de sortir aux éditions Actes Sud BD. C'est une pure, pure merveille. Et pour commencer, sans encore rien vous dévoiler, voilà ce que je vous dirai une fois que j'avais refermé Juliette de Camille Jourdi. C'était toute la mélancolie, toute la Ouais, la mélancolie de Mieux Sec, pour vous dire Juliette de Camille Jordi, qui, ce roman graphique qui, dont elle est l'auteur, scénariste et illustratrice, qui vient tout juste de sortir chez Actes Sud BD. Bah, c'est exactement de ça dont il s'agit dans Juliette, voilà, de cette espèce de questionnement, de flottement, de mélancolie aussi. Enfin, vous allez bien voir. Et puis, comme j'ai beaucoup de chance, d'ici une poignée de minutes, restez tous bien connectés et à vos casques, parce que Camille Jordi, pour vous et moi, répondra à toutes mes questions. Alors Camille Jordi, c'est pas du tout une petite nouvelle dans le milieu de l'illustration et de la bande dessinée. Rosalie Bloom, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître du grand public. C'était un triptyque. Alors le premier tome s'appelait Une impression de déjà-vu, il est sorti en 2007. Le second s'appelait Haut les mains, peau de lapin, et il était paru en 2008. Et puis Au hasard, Balthazar, qui lui a valu un franc succès et puis des prix, était sorti en 2009. Tout ça chez Actes Sud BD. Et puis elle est aussi l'illustratrice, mais on va pas se livrer à cet exercice un petit peu fastidieux, de pas mal d'albums pour la jeunesse. Rosalie Bloom était très construit, très écrit. Il portait en lui une sorte d'enquête. On suivait quelque chose. Il y avait un fil comme ça tendu. Là où Juliette correspond à toute autre chose, en fait. Quand on ouvre le roman graphique, on trouve cette Juliette qui arrive dans une gare en province. Son père devait venir les chercher et puis il a oublié, ce qui n'arrange pas son moral, qui va pas bien du tout, qui est au plus bas. Elle est hypochondriaque, elle a mal partout, elle comprend pas d'où viennent ses mots, etc., etc. Bref, on comprend que elle vit et elle travaille probablement à Paris, et on comprend que elle va pas bien et qu'elle a besoin de faire une pause comme ça, et que comme c'est une pause pas pleine portée de d'énergie positive, etc., c'est une pause plutôt de dans la souffrance, elle retourne là où elle va chercher des réponses à ses questions, c'est-à-dire dans sa famille, dans cette ville de province qui n'est pas nommée. Et là, elle va devenir, en quelque sorte, une espèce de loupe de chaque personnage de la famille. Alors, les parents sont divorcés, on va trouver le père qui est comme un peu en arrêt sur image, qui stagne chez lui, comme ça, qui est un petit peu amer, qui est taiseux au plus haut point. On va trouver la mère qui, elle, est dans l'excès contraire. Alors, elle, le divorce, c'est genre, elle change de mec tous les 6 mois, elle fume des clubs avec ses copines, elle fait de la peinture, etc., etc. D'ailleurs, on la trouvera dans cette espèce de flottement là que peut être un vernissage en province. Y a la sœur aînée, alors qui elle est une espèce de char de char d'assaut, de cheval de remonte sur laquelle les parents ont probablement placé beaucoup de choses sur les épaules. Alors elle est mariée, elle a 2 enfants, elle a un travail qui lui plaît pas du tout, elle a un amant. Alors franchement, les scènes avec l'amant valent leur pesant de cacahuètes, et elle pose beaucoup beaucoup de questions. Et puis il y a la grand-mère qui a Alzheimer, et puis dans cette errance au milieu de tous ces personnages que représente une famille avec tout ce qu'elle a de plus étouffant, Juliette, ce personnage en mal-être, va trouver, va rencontrer un homme dans le PMU. Enfin, au départ, elle va pas le rencontrer dans le PMU. Et puis, moi, je vous laisse le plaisir de la découverte. Toute la force de l'album repose sur 2 choses. La justesse du propos, on va y revenir dans l'entretien avec Camille Jordi. Et puis, dans l'espace infiniment petit que représente le paradoxe entre les couleurs chatoyantes et pastel de tout l'album, le trait, le ton, contre des sujets, des questionnements qui sont parfois lourds, parfois très lourds. Il peut s'agir du secret de famille, par exemple, de la place de chacun dans la famille, du couple, de sexualité, etc., etc. Le résultat, moi, je vous le dirais bien comme ça, en fait.
Que je devienne si je n'entends plus ton pas? Est-ce ta vie ou la mienne qui s'en va? Je ne sais pas. Thank you.
Voilà, c'était Mansfield Tia, pour vous dire exactement cette espèce de paradoxe un peu douloureux, un peu angoissant, mais tellement juste, dont nous sommes tous porteurs et qui est très très bien dit dans ce Juliette, ce roman graphique paru chez Actes Sud BD et signé Camille Jourdi. Il est grand temps pour moi de l'accueillir, Camille Jourdi, pour vous en parler bien mieux que moi. Camille Jourdi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Juliette arrive après Rosalie Bloom en matière de roman graphique, votre triptyque, qui vous a valu le prix et puis une grande reconnaissance des critiques et des lecteurs, après des ouvrages pour la jeunesse. Comment est-ce qu'il est né, ce roman graphique-là, et à quel besoin répond-il ?
Oh, alors ça c'est toujours difficile de répondre à la question comment c'est venu, parce que finalement au bout d'un moment j'oublie un peu comment ça vient, mais je dirais qu'il est venu petit à petit, il m'a fallu pas mal de temps. C'est vrai qu'après Rosalie Bloom j'ai eu un petit peu du mal à me remettre à l'écriture, tout simplement parce que je me mettais la pression toute seule, j'avais peur, comme c'était le premier, à peu près la première BD que je faisais et qu'elle avait bien marché, on peut dire, j'avais peur de décevoir et de plus y arriver. Et il m'a fallu un certain temps avant d'arriver à me remettre à écrire, et voilà, je m'y suis mis petit à petit, c'est-à-dire j'ai pris beaucoup de notes, j'ai fait naître des personnages dans des carnets en les faisant parler, en les faisant exister petit à petit, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire vraiment exister des personnages. Donc il y a beaucoup, j'écris beaucoup en amont, en fait, même avant de... Il y a beaucoup de scènes finalement que j'écris qui n'existent pas, qui ne sont pas dans la BD.
Que vous coupez au montage.
Le début, Pardon ?
Que vous coupez au montage.
Oui, c'est ça, oui. Juste pour mettre en place les choses et ensuite garder seulement certaines choses, en enlever, recommencer. Voilà, je suis allée à tâtons pour cette BD, plus que pour Rosalie Bloom.
Et oui, d'ailleurs, ça se sent, ça viendra dans la question d'après. Comment racontez-vous, comment présentez-vous Juliette, ça, on va dire, sa petite histoire?
Alors, c'est l'histoire de donc Juliette qui a une trentaine d'années, qui vit à Paris et qui revient, qui s'offre une espèce de temps sabbatique comme ça pour retourner vivre chez son père dans sa petite ville natale, une petite ville de province. Là, elle y retrouve toute sa famille, sa mère qui est divorcée de son père, sa mère qui est un petit peu excentrique, qui enchaîne les conjoints, sa sœur qui est mère de famille parfaite, mais pas vraiment parfaite, puisqu'elle cache un amant dans le jardin, un amant un petit peu particulier qui se déguise en animal. Il y a aussi la grand-mère qui perd la mémoire. Voilà, donc c'est un peu l'occasion pour elle de renouer. Disons que de cette pause sabbatique, on a l'impression qu'elle en attend quelque chose pour comprendre ce qu'elle a, parce que c'est une période de sa vie où elle ne va pas très bien, où elle est très angoissée. On comprend qu'elle a toujours été angoissée, mais que là, elle a un peu envie de démêler tout ça. Et elle attend quelque chose de ce retour-là sans savoir vraiment quoi. Donc elle retourne sur les lieux de son passé, elle va revisiter la maison dans laquelle elle a grandi avec ses parents, et c'est là qu'elle fait la rencontre du nouveau locataire qui s'appelle Pollux, qui a une quarantaine d'années et qui est un bon vieux garçon. Pilier de bar, mais très sympathique.
C'est ça. Ouais. Concrètement, on sent que le scénario de Juliette a été peut-être moins écrit, moins serré, j'ai envie de dire moins organisé que celui de Rosalie Bloom. Et en même temps, les rances que vit Juliette a une importance folle, et la ville, du coup, aussi, a une très, très grande importance. C'était vraiment ça que vous aviez envie de dire au départ. Ça faisait partie de votre projet.
Oui, après moi ce qui m'intéresse beaucoup, même dans Rosalie Bloom, au-delà de l'intrigue, c'est de parler des gens, de leur caractère, de leurs défauts, de leurs failles, leurs faiblesses et des relations entre eux. Là, Juliette, c'est vraiment, ça pose un peu la question du lien qu'on a avec nos parents, avec notre famille, et c'est ça qui m'intéresse. Et au départ, j'avais envie d'ajouter une intrigue à tout ça, puis finalement, je trouvais que ça se suffisait.
Totalement. C'est très réussi. Voilà. Moi, je dis que la grande force de votre ouvrage réside dans la justesse, une fois de plus, du propos. Et moi, j'ai trouvé que finalement, en plaçant Juliette de cette façon-là, en l'écrivant de cette manière-là, vous en faisiez en quelque sorte une espèce de loupe. C'est-à-dire qu'elle va grossir tous les autres personnages dans ce carcan qu'est la famille. Mmh. Et puis elle va trouver quelque chose qui lui appartient à elle, finalement.
Oui, c'est l'occasion pour elle de mettre un peu les choses au clair, c'est-à-dire qu'à la fin du récit, à la fois les choses ont changé, à la fois les choses n'ont pas vraiment changé. On a l'impression qu'ils ont compris peut-être des choses sur eux-mêmes, c'est-à-dire que pour moi, c'est des personnages qui se cherchent eux-mêmes et qui se cherchent entre eux. Mmh. Et à la fin, voilà, bon, il y a cette révélation, cette espèce de souvenir qu'elle n'est pas sûre d'avoir eu, et puis ça remet en question un peu l'étiquette qu'on lui colle depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'elle, c'est la petite sœur fragile à qui on ne dit jamais rien, et puis sa grande sœur, c'est la costaud qui doit tout endosser, et les deux, elles souffrent de cette étiquette-là. Mmh. Et du coup, voilà.
Le repas de famille, je vous assure, restera. Le repas de famille et les scènes avec l'amant, enfin, moi, ça vient de rentrer dans ma propre anthologie personnelle. C'est très, très fort, vraiment, c'est très fort. En même temps, il y a une autre force au-delà de la justesse, c'est tout ce que vous placez dans l'infini. Paradoxe entre l'espèce de chatoiement de couleurs, mais très pastel quand même, de votre ouvrage, et puis des questions qui sont quand même lourdes de sens. Quand je pense au secret de famille ou à la sexualité dans le couple, c'est quand même pas léger, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit. Après, c'était pas voulu. C'est juste que je dessine comme ça et que ce qu'il y a, c'est que j'aime vraiment l'illustration jeunesse et je pense que ça se ressent beaucoup. Je me sens beaucoup plus proche dans l'influence, dans l'illustration jeunesse avec des couleurs assez vives et un peu. On m'a souvent dit que c'était un peu naïf, voilà, un peu enfantin. Et c'est ma manière de dessiner, parce que tout simplement j'aime bien faire comme ça, mais c'est pas voulu, je me suis pas dit je vais faire des dessins joyeux pour parler d'un propos plus dur.
Ben, en tout cas, le résultat est là et c'est très bien. Vous ne couperez pas à la question rock'n'page, Camille Jourdi. Si vous deviez choisir un seul titre de musique pour évoquer Juliette sans en parler, ça serait lequel ?
À un moment, il y a Pollux qui chante, je ne sais même pas le nom de la chanson, une chanson italienne, c'est la BO du film Les Frontés.
Tout à fait.
Et j'avais mis ça parce que ça me rappelle mon enfance, parce que j'adorais ce film-là.
Tout à fait.
Et donc voilà, j'ai ça qui me vient en tête, mais c'est pas... Remarque, ça lui irait pas mal. Hein.
Bah parfait, on garde celle-là. Merci beaucoup. Voilà, c'était Camille Jourdi au micro de Rock'n'Page pour vous parler de ce roman graphique exceptionnel qu'elle vient de signer, qui vient de sortir chez Actes Sud BD et qui s'intitule, je vous le rappelle, Juliette. Il faut vous le procurer, vous le lire. Ça, c'est sûr, c'est magnifique. Vraiment, c'est très juste, c'est pas violent, c'est très bien amené, on s'y retrouve tous un petit peu. Bref, Juliette de Camille Jourdi chez Actes Sud BD. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les anciens numéros de Rock'n'Page sur le blog qui lui est consacré. Vous n'avez juste qu'à taper dans un moteur de recherche Rock'n'Page. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous laisse avec une chanson française. C'est pas souvent le cas dans Rock'n'Page, mais qui va vous dire... qui va faire écho, et puis avec une scène d'anthologie de ce Juliette de Camille Jourdi.
Rien n'est plus tendre, plus chaleureux, plus traditionnel qu'un repas de famille. La famille est à table, les tatas et les tontons, les voyous et les notables, la rosieresse et le rocheton. Tous les cousins, toutes les cousines, tous les filleuls, tous les parrains, les amants et les concubines, et les enfants adultérins. On s'est habillé en dimanche, on a sorti les grands couteaux, on va se payer une bonne tranche du grand-papa gâteau. Au repas de famille, invitez les grands sentiments. Petits garçons et petites filles, il faut aimer ses grands-parents. Grand-père avait 80 berges, il ne pouvait servir à rien. Servi avec des pointes d'asperges, il se présente encore très bien. C'est vraiment le pied, dit la grand-mère, de voir les siens dans un ragoût. Lui qui, à cause de ses ulcères, ne bouffait que du fromage mou. Je ne me souviens pas de la recette, mais je sais qu'il fallait des œufs dans l'art d'accommoder les restes. Il faut un œuf pour faire le vieux. Oh, oh. Au repas de famille, invitez les grands sentiments. Petits garçons et petites filles, il faut aimer ses grands-parents. grand-père aimait trop le Bourgogne. Sa viande en garde le parfum et en cuisant le vieil ivrogne cocotait comme un coq au vin. C'était aussi un gros vicieux et la bonne sœur de 17 ans s'écrie bordel de nom de Dieu, il était plus tendre de son vivant. Cette oraison fait les délices de la famille qui applaudit et l'on donne le haut de la cuisse à la nonnette qui l'avait dit. Ave Maria, petit garçon, petite fille, il faut aimer la familia. Quand enfin le repas s'achève, il n'y a plus rien à becter. Et papa lourdement se lève en faisant signe qu'il va jacter. La bouche en cœur, la voix émue, il nous raconte son vieux jeton. Tandis que les cousins évaluent son poids pour un prochain gueuleton. Il a du charme, il a du style, et afin de l'encourager, chacun s'écrit « Vas-y, Mimile, on voit que t'es plein de ton sujet !» Le mot de la fin, F-A-I-M, reste valable en tous les cas. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Il faut aimer. Moralité, il faut aimer son grand-papa.